Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec le dîner en ville. Des critiques où ont pris place Fabienne Pascot de Télérama, Armelita, Armel Elio du Figaro, Gilles Costaz de Politis, Jacques Nerson de L'Obs pour parler notamment du Dîner en ville de Christine Angot, mais également des pièces de Yasmina Reza, Lars Noren, Florian Zeller, Harold Pinter, sans oublier le lauréat, et un mois à la campagne de Tourguenieff dans le courrier de la semaine à propos de Bibi à l'atelier avec Isabelle Carré et Bruno Solo. Renan Cerclin est scandalisé par les propos infâmes de Jacques Nerson. Selon lui, il est difficile pour une femme de rester belle et fraîche, confrontée aux maux de la pauvreté que sont entre autres la malbouffe et l'alcool. Cher monsieur, votre vision est celle d'un bourgeois catho conservateur. Vous devriez faire des excuses publiques. Bravo Armel, dit Claire Marie, pour votre saine colère. Contrairement à ce qu'affirme Jacques Nerson, vous êtes dans le vrai. Le physique et les moyens financiers ne sont pas liés. Je conseille à Jacques Nerson de se reconvertir dans la photographie tant il produit de clichés. Marie Foulon, j'en ai reçu beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tout lire. Certaines étant d'ailleurs presque illisibles pour vous. Marie Foulon remercie également Armel d'avoir pris position pour défendre les femmes de conditions modestes qui, malgré des grossesses répétées, restent, malgré les années, très fraîches et féminines. En fait, Armel a dressé le portrait, nous dit Marie Foulon, de ma mère, et c'est très touchant. Odile Roire, qui est comédienne et metteuse en scène, est peinée d'entendre Jacques Nerson et Armel Elio se disputer pour savoir qui des deux connaîtrait le plus de pauvres. Je voudrais faire remarquer que
elle est de mauvaise foi, madame.
Je voudrais faire remarquer que les actrices sont des êtres à part pour qui il est très difficile d'être autre chose que jeune et jolie, au risque d'être mise à la poubelle. Et cela semble ne jamais vouloir évoluer. Vous voulez ajouter un mot, Jacques ?
Non, je trouve qu'il y a quand même un peu de politiquement correct dans tout ça. C'est-à-dire que je me suis probablement mal exprimé, et si c'est le cas, je prie les auditeurs de m'en excuser. Mais qu'on ne me dise pas que la pauvreté ne se traduit pas dans les corps au bout d'un moment, et c'est vrai que quand on vit mal, et ben ça finit par se voir. C'est pas du mépris. Je veux pas dire que les pauvres sont moches, mais je veux dire du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est même
pas du
contraire.
Tout ce que vous aviez dit,
mais
d'ailleurs.
Ce que je dis, c'est qu'il y a un moment où ça se voit, et en l'occurrence, je trouvais que ça n'était pas le cas pour Isabelle Carré. Mais je trouve cette avalanche d'insultes un peu ridicule. Enfin bon.
À propos du jeu de l'amour et du hasard, monté par Catherine Yégel, Porte-Saint-Martin, Christine Traxler applaudit une merveille et une merveilleuse analyse de vos critiques qui l'ont aimé, en particulier de Jacques Nerson, sur la parfaite diction du texte qui permettait d'en savourer chaque mot et les plus subtiles attentions. Au contraire, Nicolas Nézy est d'accord avec Fabienne. Décor trop imposant, rythme ralenti, violoncelliste trop décorative. On attend avec impatience les interventions de Vincent de Dienne, tant elles viennent dynamiser une pièce à l'embonpoint visible et au classicisme désuet. C'est d'ailleurs ce que pense Philippe Chavernac à propos de la même pièce, qui est aussi d'accord avec Fabienne. C'est du théâtre d'une autre époque. C'est la pièce que je choisirais si ma cousine de province venait passer un week-end à Paris. Propre et sans surprise, de bons acteurs, belle distribution, beaux costumes, c'est réussi, mais légèrement ennuyeux. Ben moi, je ne suis pas d'accord. À propos de la pièce de Jean-Luc Lagarce au Vieux Colombier, Antoine Blanc n'est pas content. Cher Masque, J'étais sur mon siège, j'attendais que l'émotion vienne. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne et monter à contresens au vieux colombier. Quand on attend la pluie, on se parle et on ne gueule pas, comme le font les comédiennes. Et Bertrand Hérault nous rappelle que la pièce de Lagarce a été jouée il n'y a pas longtemps au Théâtre du Nord-Ouest, mise en scène par Magali Claustre. Et c'était formidable, pour 10 euros seulement, à peu près sans décor, mais avec émotion. Et pour finir, Sylvie Lansade de Nanterre est furieuse, mais très furieuse, fan du travail de Jean-Louis Martinelli. Nous sommes allés voir Nénès d'Aziz Chouaki, malgré l'ordre de Fabienne Pascaud et de ses acolytes qui ont repris en chœur son fatidique « N'y allez pas ». Comment mépriser à ce point le travail d'un dramaturge vivant, Aziz Chouaki, qu'on a rencontré après le spectacle, ne comprend pas votre hargne à l'encontre de sa pièce. Rien à ajouter ?
Non. Non.
Eh bien, on commence avec précisément Dîner en ville. C'est la première pièce de Christine Angot, montée au Théâtre de la Colline, par Richard Brunel avec l'actrice de Monroy, la réalisatrice de La Tête Haute, c'est Emmanuel Berco, avec Valérie de Dietrich, Noémie Develay, Ressiguier, Jean-Pierre Malot, Djibril Pavadé, une pièce que Richard Brunel a commandée à Christine Angot après l'avoir entendu lire avec Nora Krief des pages de son livre « La petite foule ». J'ai aimé, dit Brunel, la théâtralité, la finesse et l'acuité de ses dialogues et le motif du dîner en ville s'est imposé. C'est un théâtre essentiel de la construction des dominations. Je n'ai pas eu encore le temps d'aller voir cette pièce, donc je vous demande ce que vous en pensez, Jacques.
Moi, j'en pense beaucoup de bien, tout en reconnaissant que c'est pas...
Vous en pensez du bien ?
Beaucoup de bien.
De Christine
Angot. J'ai beaucoup aimé la pièce précédente, Un amour impossible, de Christine Angot.
Oui, c'était une adaptation de son livre.
Je pense qu'elle s'est inspirée de son roman, mais que c'était une véritable pièce qu'elle avait composée à partir de son roman. C'était pas seulement une adaptation, c'était un véritable spectacle de théâtre que j'avais vu, et là, c'est le cas. C'est quelqu'un qui sait écrire pour le théâtre, qui a une énergie dans son écriture qui correspond exactement à la scène. Alors, c'est un spectacle qui peut surprendre parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice, c'est plutôt une série de portraits, mais ces portraits sont très forts.
Ils racontent beaucoup
de choses sur la société dans le monde dans lequel nous sommes.
C'est très proche de La petite foule, de son livre.
Oui, bien sûr, mais la théâtralité est très grande, c'est remarquablement joué. Je trouve qu'il y a d'excellents comédiens, c'est bien monté. J'ai passé un moment très intéressant, vraiment. Je pense que c'est un auteur à soutenir. J'ai personnellement horreur de Christine Angot comme personnage. Le personnage médiatique m'exaspère et plus encore. Mais on ne peut pas la juger à travers ses prestations à la télévision qui sont lamentables. Mais en revanche, c'est un auteur intéressant. Puis ses romans m'intéressent aussi. Je me souviens du marché des amants. Le marché des amants est un très beau livre. Enfin non, c'est quelqu'un qui m'intéresse.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade. Moi, j'aime beaucoup Christine Angot et même médiatiquement, elle m'amuse. Je trouve qu'elle a du courage.
Ah bah donc, vous aimez le mauvais ce qu'il y a en elle.
Voilà, mais ça, chacun son sale goût, mon cher Jacques. Ouais. Donc moi, j'apprécie énormément la romancière. Là, je dois dire que j'ai été un petit peu déçue parce que autant la langue de Christine Angot, il y a un plaisir à forer les mots, à les répéter, à les labourer, à être comme elle est dans ses romans, à explorer le langage et le verbe dans ses crudités et ses cruautés, autant je trouve qu'au théâtre, ça ne fonctionne pas, parce que le théâtre a besoin d'espace, le théâtre a besoin de choses tenues, fragiles. Elle le dit elle-même, d'ailleurs, au début du spectacle, où, devant le rideau, une directrice de théâtre est censée interroger la comédienne du moment, interprétée par Emmanuel Berco, quand on lui demande qu'est-ce que c'est qu'une grande comédienne, elle dit que le grand, c'est le tenu, le fragile, le presque pas chez un acteur.
C'est ce que j'ai entendu et vu
sur
scène.
Eh ben non, tout est trop affirmé. En plus, comme le suggérait Armel, moi j'ai entendu la voix, la langue de Christine Angot dans tous les personnages, sa manière de parler.
Comme beaucoup de grands auteurs.
Excusez-moi, mais non, chaque personnage doit être
différent. Tous les personnages de Claudel parlent le Claudel.
Non, pas du tout.
Et puis alors, la caricature de la bourgeoisie et des des bobos à ce point.
Voilà, c'est peut-être ça qui vous gêne.
Mais ça ne me gêne pas. C'est fait tellement grossièrement et bêtement, Jacques. Mais oui, c'est naïf et c'est innocent.
Elle mérite bien
mieux. Elle mérite bien mieux, Christine Angot. C'est une fille étonnamment subtile. Mais là, le théâtre, il faut qu'elle s'y mette, quoi. Il faut qu'elle travaille. N'est pas dramaturge qui veut. C'est un art à part entière, avec une science, avec un artisanat.
Il n'y a pas une once de mauvaise littérature là-dedans.
Mais c'est pas du théâtre subtil. C'est du théâtre à effet et à dialogue.
Jérôme me désapprouve depuis le début.
Jérôme a échappé à 1h15 de nullité.
En revanche, c'est admirablement interprété. Ah, et ce que je sauverais, attendez, Jérôme.
Non, mais chacun prend son temps de parole aussi. Là, vous êtes au-delà de votre temps de parole.
Alors
Fabienne.
Je me tais. Je voulais dire que sur le fait de prendre un comédien noir et d'expliquer à quel point le fait d'être black dans cette société bourgeoise rend invisible, ça, j'ai trouvé ça pas mal fait.
Armel.
Moi, j'ai trouvé que c'était zéro. Mais alors, zéro, zéro plus zéro égale la tête à Toto. Mais vraiment, je ne comprends pas Jacques Nerson. Je trouve que elle n'a aucune inspiration, mais rien. Elle est tombée en panne. C'est une commande de Richard Brunel, qui avait distribué à l'avance plein de personnages parce qu'il s'attendait à monter une pièce très importante. Or, il y a 1h10 de spectacle.
Et alors?
1h10 de petites paroles, de petits sketchs, d'une pauvreté confondante. Alors effectivement, il y a des bons acteurs, mais des bons acteurs qui n'ont rien à jouer. Mais arrêtez Jacques, enfin vous qui défendez Yasmina Reza, sachez faire la différence.
Alors là, on voit la différence avec l'écriture de Yasmina Reza sur des sujets à peu près identiques.
Pourquoi vous les comparez?
Parce que c'est une histoire de dîner, comme dans Bella Figura.
Et alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire que vous n'ayez pas vu à chaque instant, alors que Emmanuel Berco, qui est d'ailleurs une fille absolument formidable, elle imite à chaque seconde les manières de parler de Christine Angot, qui a elle-même insufflé dans le tout petit théâtre de marionnettes qu'elle nous donne là. Toute sa manière de parler, on croit la voir à la télé, on croit l'entendre, on croit la voir dans ses lectures. On sait très bien, c'est du Angot, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune portée critique. C'est d'une pauvreté navrante. Il y a un décor qui va, qui vient, qui ne sert à rien. C'est raté.
Gilles.
Ah, moi, je suis d'accord avec Jacques Nerson cette fois.
Mais toi, dès qu'il y a un écrivain, tu crois qu'il faut le défendre. Arrête.
Non. Mais justement, défendons-la, parce que moi, c'est effectivement sa première vraie pièce. Et je trouve que c'est un exercice tout à fait réussi, avec une liberté de la langue qui est...
Mais enfin, quelque chose qui dure 1h10, c'est pas une pièce, arrête.
Mais c'est ridicule, et puis, on va pas juger.
On peut pas dire ça de Darrol Schneider tout à l'heure, c'est pas certain.
Non, calmez-vous.
Non, j'ai trouvé que...
Mais c'est que des clichés sur les bobos d'aujourd'hui, ce dîner était épouvantable.
Non, mais il se trouve qu'on parle de quoi, là? On parle du théâtre, il y a quelqu'un qui parle du théâtre longuement, qu'on parle du cinéma, beaucoup du cinéma, on parle de la musique et on parle de la médecine. Donc c'est quand même très ciblé sur des mondes.
Ben, c'est un dîner.
C'est un truc qui
a dû être écrit en un quart d'heure.
Et c'est écrit avec beaucoup d'intelligence.
En plus,
la mise en scène de Richard. Alors, c'est surtout, il y a Jean-Pierre Malo qui est extraordinaire. Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Malo et éblouissant
dans ce spectacle. Les comédiens sont tous très bien.
Alors, moi, je l'ai vu en fait à Romans-sur-Isère, dans une grande salle où la pièce était peut-être pas tout à fait à l'aise. Et quand même, tout m'arrivait très bien, grâce aussi à la mise en scène de Richard Brunel, qui est assez insolite parce qu'elle s'adresse beaucoup au public de façon assez audacieuse. Enfin, un exercice réussi, voilà.
C'est au Théâtre de la Colline et c'est la première pièce de Christine Angot, Dîner en ville. Le fils, alors là, que j'ai vu à la Comédie des Champs-Élysées, c'est après La mère et le père, la nouvelle pièce de Florian Zeller. Et le dernier volet de sa trilogie familiale, c'est aussi une surprise, en tout cas pour moi, et pour tous ceux qui connaissent son théâtre, qui est quand même fondé sur l'ellipse, sur le non-dit. Ici, au contraire, tout est très linéaire et terriblement réaliste, enfin au sens où l'histoire est terrible. Hein. Un soir, Pierre, un avocat en vogue, qui vit avec sa nouvelle femme, Sophia, qui est jouée par Élodie Navarre, et leur nouveau-né, voit débarquer son ex, qui est jouée par Anne Consigny, et elle l'appelle au secours. Leur fils de 17 ans, Nicolas, est en pleine dépression, il ne communique plus, il ne va plus au collège. Il se scarifie et donc elle ne sait plus quoi faire. Et Pierre décide alors de prendre Nicolas chez lui avec la ferme intention de le remettre dans le droit chemin, mais comment sauver un adolescent de ses pulsions réellement profondément suicidaires. Alors, pour jouer le garçon en détresse, le metteur en scène, Ladislas Chola, a choisi Rod Parado, 21 ans, mais ce qui est assez formidable, c'est qu'il a une gueule d'ado. Ah, il n'a pas vraiment une gueule de garçon de 21 ans. César mérité, du meilleur espoir masculin pour la tête haute, le film, on y revient, ouais. D'Emmanuel Berco. Décor simple, constitué pour l'essentiel de panneaux coulissants. Une musique omniprésente. J'ai cru à la fin que j'allais tuer les musiciens, parce qu'il n'y a pas qu'un seul compositeur. Mais c'est constant, du début à la dernière seconde, pour un drame évidemment poignant et, j'allais dire, malheureusement, ordinaire. Armelita.
Oui, c'est dommage, cette musique, parce qu'elle tue l'émotion.
Y compris Albidoni, qui est quand même...
Le mouvement tragique de la pièce, parce que...
Le grand compositeur des ascenseurs.
Elle sépare chaque séquence, elle est longue, elle est lente, et c'est vraiment dommage, parce qu'autrement, on est devant une pièce tragique. Jusqu'à présent, Zeller, c'est vrai qu'il essayait d'éviter, même quand il parlait d'Alzheimer, même quand il parlait de la mort.
Oui, ou de l'amour, souvenez-vous de l'autre au début, oui. Qui était une très bonne pièce d'ailleurs, c'était jamais clair, c'était
voilà,
toujours
il évitait d'affronter la réalité, et là il l'affronte. Avec une certaine simplicité en plus, sans chercher à faire des pirouettes. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce travail. Je trouve là, à part cette musique qui est beaucoup trop présente, je trouve qu'il y a vraiment un beau travail de mise en scène, de direction d'acteur, et que Rod Parado, c'est vraiment pour moi une révélation, quoi, parce qu'il apporte quelque chose de formidable, parce que il est sincère, il a aucune expérience du théâtre, non, puisqu'il a été découvert par la femme qui faisait le casting du film.
Je l'interroge, je me rends compte, je n'ai même pas cité Yvan Attal, qui joue quand même le père. Dans ma distribution, c'est un peu étrange. Bon, c'est Yvan Attal qui joue le père.
Et c'est très beau d'ailleurs, ces scènes entre le père et le fils, ces scènes de peur, d'incompréhension, d'amour, de méfiance. Et c'est très beau parce que justement, il y a un acteur qui a tendance à un petit peu, non pas se surveiller, mais qui est réfléchi, qui est Yvan Attal. Et il y a en face de lui ce jeune homme tellement instinctif et tellement extraordinaire sur un plateau, qui a une présence, qui a une beauté, et qui comprend la détresse de ce jeune adolescent. C'est vraiment très beau. Et puis c'est bien de voir les adolescents en détresse, on les voit au cinéma, on les voit jamais au théâtre.
Gilles ?
Moi, j'aurais tendance à préférer les pièces de Florian Zeller dont l'architecture est plus complexe, avec effectivement différentes versions de la même scène, avec juste un mot qui change, et ce mot qui change, change tout. Là, effectivement, c'est plus direct, plus droit. Mais alors, c'est d'une telle sincérité, d'une telle vérité. Je veux dire moi, j'ai rarement vu une pièce où le public est autant saisi à la fin. On prend un coup de poing dans la figure, mais c'est bouleversant. C'est absolument bouleversant. Et je crois qu'il y a rarement de pièce aussi forte, aussi belle, aussi violente, aussi importante contre la bonne conscience des parents. C'est un cri de l'enfance qui est absolument extraordinaire.
Enfin, c'est pas que la bonne conscience. Mais
non, ils ont justement pas bonne conscience.
C'est justement, c'est plus compliqué que ça.
Ouais, hein. Ils s'accommodent, ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Il faut dire aussi que c'est une pièce, peut-être une des plus longues aussi de Zeller. Ça dure 2h15. Enfin, on n'est pas dans le registre non plus habituel de Fabienne.
Contrairement à ce que vient de dire Gilles, moi je trouve que la position des parents est admirablement montrée, parce que les parents, ils se sentent responsables d'abord d'avoir divorcé, ils se sentent coupables, ils aiment leur fils, ils font tout ce qu'ils peuvent. La mère au début, elle essaye, elle est désespérée de le confier à son père, elle aimerait le garder.
Je ne sais pas de cet avis, hein. Non.
En tout cas, moi je le suis. et donc, même quand l'enfant va se retrouver en hôpital psychiatrique, à la fin, à cause de ce silence tellement énigmatique, il va plus en classe, ils ne savent pas quoi faire et on partage leur désarroi. Et ce qu'il y a de beau dans la pièce de Zeller,
parce que ils font le mauvais choix.
Je suis pas comme n'importe qui pourrait le faire. Je crois que j'aurais fait le même choix.
Mais c'est aussi ce que raconte la pièce.
Oui, mais ce que dit la pièce, c'est que l'amour ne sert à rien. C'est que face à un enfant qui a tellement de problèmes, et d'où ça vient ces problèmes, d'où vient sa souffrance, d'où vient son chagrin, on ne sait pas. Et c'est ce mystère de la douleur de l'ado.
On ne le saura pas. Il n'y a pas de faux secret à la fin.
Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que je trouve bien. Ce silence, cette énigme, et que même aimer, eh bien, ça ne corrige rien. Et ça, je trouve qu'il aborde ça vraiment sans la virtuosité habituelle et que c'est vraiment.
Je suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment une pièce contre les parents.
Non, pas du tout.
Non, mais justement, parce que vous êtes parents ou des bonnes consciences. Mais c'est pas ce qu'elle raconte la pièce.
Non, les parents, ils sont déchirés en permanence.
Ils sont complètement démunis.
Bien sûr, ils sont touchants, mais ils se trompent tout le temps.
Comme tous les parents. Comme tous les parents se trompent.
Elle raconte, et c'est ça qu'elle est extrêmement sévère. C'est vraiment le cri d'un enfant contre ses parents.
Non, pas du tout. C'est contre la vie, il n'aime pas vivre.
Ce qui me touche beaucoup, c'est la... Effectivement, je suis d'accord avec vous trois, sauf ce que vient de dire Gilles, mais pour le reste, je suis d'accord pour admirer énormément cette pièce. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que quelqu'un d'aussi virtuose que Zeller renonce, pour cette pièce-là probablement, à sa virtuosité habituelle. Et c'est comme si quelqu'un qui est très armé, parce que il est ultra doué ce garçon, mais là il décide de combattre à main nue. Il renonce à toute arme et il aborde un sujet extrêmement grave et malheureusement très répandu autour de nous. On voit beaucoup d'adolescents dévissés et perdre, enfin, se désocialiser.
Là, ça va très loin quand même. Hein.
Malheureusement, c'est quand même assez répandu. Ça ne se termine pas toujours de la même façon, mais c'est un mal qui existe. On voit tout à coup des enfants qui perdent le goût de vivre alors qu'ils n'ont pas encore vécu, refusent de se battre alors qu'ils ne se sont jamais battus.
Parlons de théâtre, on n'est pas au téléphone sonne non plus sur la crise de l'adolescence.
C'est exact. Je suis désolé.
Je vous le rappelle quand même, parce que là, on est en train d'un peu déraper.
Il n'empêche que nous avons tous les quatre étaient très, très, très touchés par cette pièce. Donc, le sujet est fait, peut-être téléphone sonne, mais la pièce, non, vraiment pas. Et il faut revenir aussi sur les acteurs. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, que je trouve merveilleux, c'est Anne Consigny.
Ah oui,
elle
magnifique.
Est bouleversante dans le rôle de la mère, et qui ne sait justement pas comment faire, et qui voudrait tellement aider ce gamin et qui n'y arrive pas.
Et
ils ne savent pas comment
aussi.
S'y prendre. Ils sont très... Elle m'a peut-être plus touché que lui, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est un très, très beau spectacle, et vraiment une belle pièce. Zeller est maintenant plus qu'un auteur doué, c'est un grand auteur.
À la Comédie des Champs-Élysées, c'est le fils de Florian Zeller. 24 ans après sa création, voici donc à nouveau Art, la pièce qu'on dit culte de Yasmina Reza, montée au Théâtre Antoine par son metteur en scène originel, qui est Patrice Kerbra, avec à la place de Lucchini, Arditi, Evanek, pour la première version, parce qu'il y a eu ensuite, il faut le savoir, un peu de Trintignant, un peu de Rochefort, un peu de Michel Blanc. Donc, à leur place, il y a Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling et Alain Fromager pour cette nouvelle version, soit trois hommes poussés, vous le savez, à bout et au pugilat par une simple toile monochrome. Serge, c'est donc Alain Fromager, qui est médecin, dermatologue, qui vient d'acheter pour 30 000 euros un grand tableau blanc. Alors, dans la version... Ancien franc, je crois que c'était 20 000 francs. Il montre fièrement son acquisition à Marc. C'est Charles Berling, qui est ingénieur dans l'aéronautique, qui crie à l'imposture. Et puis il montre aussi à Yvan, c'est Darroussin, qui est employé d'une papeterie et qui feint d'être ému par l'œuvre avant de se rétracter. Yvan a lu, il faut dire qu'il a d'autres soucis, il s'apprête à se marier et se demande s'il a bien fait. Très vite, autour de ce tableau blanc, strié de fines rayures blanches d'1,60 m sur 1,20 m, qui évidemment n'est qu'un prétexte, les trois amis vont s'entre-déchirer, un peu comme au masque et la plume. Et quand on se déchire chez Yasmina Reza, c'est évidemment du brutal. Mise en scène aussi sobre qu'en 94. Je me demande même s'ils n'ont pas gardé les éléments du décor. Salon blanc, à l'image du monochrome, canapé, un fauteuil, trois acteurs, dont un Darroussin que j'ai trouvé exceptionnel. Dans ce rôle un peu victimaire et veule. Un peu déçu en revanche par Alain Fromager dans le rôle de l'acheteur fortuné et censé être triomphant. Fabienne ?
Bien, moi, je fais partie de ceux que la pièce avait choqué et dérangé. En 1994, oui,
choquée.
Parce que je trouvais déjà, dès le titre « art », entre guillemets, je trouvais que la critique de l'art contemporain qu'on pouvait y voir...
Mais c'est un prétexte,
c'était pas le sujet.
Oui,
mais moi, j'avais été... Peut-être la virtuosité des acteurs absolus à l'époque, Lucchini, tellement brillant, Arditi, Evanek, ça prenait encore plus de sens, je trouve, pour moi, enfin, tel que je l'ai vécu. En 1994, la pièce m'avait dérangée parce que je trouvais que c'était un peu bourgeois et tradi de se moquer d'une œuvre blanche que je trouvais très belle au demeurant.
Ah bon, là, Martin Barré, vous...
J'aime beaucoup Martin Barré, personnellement. D'accord. J'aime beaucoup. Mmh. Et si j'avais et des moyens, demandez, mais, si j'avais des moyens, je m'achèterais volontiers une œuvre de Martin Barré.
Et vous regrettez le premier jugement que vous avez porté? Vous demandez
pardon?
Oui, parce
que j'ai découvert... Oh, mais je ne demande jamais pardon, Jacques,
ah
je
bon
le dis tout de suite. Là, j'ai découvert une autre pièce. Il faut dire que je l'avais redécouverte aussi grâce au Tégestan, qui est ce collectif flamand qu'il avait présenté au Théâtre de la Bastille l'année dernière. Et j'ai découvert une histoire d'amitié, une histoire d'homme en déroute. Et c'est ça que j'ai aimé. Mais à l'heure de l'affaire Weinstein, là, comme on dit, où les hommes semblent les pauvres dans une des situations précaires, je trouve que cette histoire d'amitié, ces hommes paumés dont l'un doit se remarier, mais un peu à reculons, l'autre dont ses copains disent du mal de la femme, c'est ce qui vivent une amitié qui se termine, ils savent plus après quoi ils courent. J'ai trouvé que le désarroi de ces hommes était admirablement montré par Yasmina Reza, qu'elle saisissait le masculin avec une finesse grande. À mon sens. Maintenant, j'ai été déçue par le fait que on remonte la pièce exactement pareille, alors que 25 ans ont passé et les pièces, ça bouge, ça change.
Bon, on l'a montée plusieurs fois depuis et autrement.
Oui, mais là, la mise en scène, elle est quasiment identique, comme le disait Jérôme.
Oui,
et je trouve que le trio d'acteurs n'est pas à la hauteur. Je trouve que les gens rient tellement qu'ils en font trop, du coup. Perling, j'ai trouvé qu'il s'époumonnait. Je suis d'accord, Daroussin est exceptionnel. Alain Fromager, alors, il plane un vague soupçon d'homosexualité, et ça, c'est intéressant, ça n'existait pas dans la version de 94, mais j'ai trouvé quand même que les trois acteurs n'avaient pas la maîtrise du trio d'origine.
Jacques. Moi, je ne vois pas plus d'homosexualité aujourd'hui qu'en 94. Je ne vois pas pourquoi en 22 ans, ça serait devenu une pièce homosexuelle.
Moi, je l'ai perçu comme ça, je raconte mon expérience.
Mais en revanche, ça parle d'autre chose qui est un chagrin d'amitié. Il n'y a pas que les chagrins d'amour, il y a les chagrins d'amitié. C'est ce à quoi on assiste, et c'est effectivement à la fois émouvant et extrêmement drôle. La pièce est inoxydable, on peut la monter de toutes les manières, de toute façon, elle fonctionne, c'est une pièce miraculeuse,
oui,
c'est un petit chef-d'œuvre.
Comme vous dites.
Non, mais fonctionner, c'est pas négatif quand il s'agit d'une mécanique comique, c'est loin d'être négatif. Et c'est le comique est invincible. On a l'impression que par quelques bouts qu'on la prenne, ça marchera.
C'est vrai que
les
gens rient beaucoup. Hein.
Trop, ça gâche le jeu des acteurs.
Bah, écoutez,
je
pense qu'on rit pas trop quand on ne se force pas à rire. Et là, les gens ne se forçaient pas autour de moi, loin de là. Moi, pour ma part, j'ai passé une soirée.
Le soir où j'étais,
il riait
plus que quand j'ai vu ensuite Poussière de Lars Norén. Il y avait plus d'éclat de rire.
C'est sûr. Bon, Daroussin, effectivement, mérite absolument tous les éloges. Sa sincérité rejoint le rôle. Ce qui est amusant, c'est que cette tirade du faire-part qui fait chaque fois un tabac. Et ce qui est amusant, qu'elle a été rajoutée.
Ça n'a jamais été aussi bien fait que par Daroussin, là.
Or, c'est vrai. Était pas mal.
Mais c'est plus drôle encore parce qu'il y a quelque chose de plus naïf.
Et puis de poignant. De plus poignant aussi chez Daroussin.
Quand on pense que cette tirade n'a été rajoutée par elle, c'est ce qu'elle raconte, que pour équilibrer le rôle, parce que finalement ce rôle était trop petit par rapport aux deux autres, et qu'elle voulait que les comédiens, aucun ne soit jaloux l'un de l'autre. C'est un
puis
moment
on comprend mieux
fabuleux.
Pourquoi il est lâche ensuite devant le tableau, enfin devant, alors ce qu'il en pense le pire. Gilles.
Oui, bah, c'est une pièce imparable, quoi. Dès que ça démarre, on meurt de rire et ça va jusqu'au bout comme ça. Alors le spectacle effectivement n'a pas beaucoup changé, c'est un peu secondaire, les comédiens Berling est bien aussi, c'est vrai que Daroussin est absolument stupéfiant. J'ai bien aimé Fromager aussi. Non, je pense que c'est une espèce de classique qui
oui,
défend
mais même quand
la,
on monte Molière, on l'actualise, on le monte autrement, il y a une perception de la société bouge, pourquoi on monte exactement pareil?
Non, mais on sent bien l'histoire d'amitié dont vous avez parlé, Fabienne. C'est quand même très... Ça aussi, c'est le deuxième aspect de la pièce. Non, ce qu'on se dit peut-être, c'est que finalement, l'art moderne n'a jamais su écrire une pièce de cette force-là pour défendre ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que Martin Barré se mette au théâtre et réponde enfin à Yasmina Reza. Il y a une pièce à inventer
mais
pour être aussi fort que art. Parce que art,
c'est
encore
dit,
une
répéter,
fois,
c'est
imbattable.
Pas son sujet,
hein.
C'est quand même un prétexte.
Ça tape juste,
prétexte,
ça tape fort en tout cas.
Armel.
Oui, moi, je ne pense pas que ce soit une critique du tout de l'art contemporain. Je pense qu'effectivement, c'était un prétexte qui lui est venu de la vraie vie, en plus de son voisin qui avait acheté
parce que,
réfléchissez, un tableau.
Ça aurait pu marcher avec un tableau figuratif, hein.
Oui.
On aurait pu avoir
bien
aussi.
Bien sûr, mais comme par hasard, c'est de l'art contemporain.
Elle aurait pu acheter
alors,
une croûte, et puis voilà.
Oh, quand même, dans le texte,
non,
arrêt,
et puis c'est beau, mais c'est beau
tout ce qu'on peut dire de l'art
contemporain. La symbolique du blanc, c'est beau, et puis, Et puis à la fin, je ne raconterai pas la fin, parce qu'il y a, je l'espère, beaucoup de spectateurs qui n'ont pas encore vu la pièce et qui ne la connaissent pas, mais donc le blanc insiste, si j'ose dire. Et moi, j'ai vraiment pris le spectacle comme il est, c'est-à-dire à la fois très franc et très fin. Moi, j'ai trouvé les trois acteurs très bien. J'ai beaucoup aimé, moi, Alain Fromager, le soir où je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était parfait, avec effectivement cette espèce de petite ambiguïté, cette espèce de snobisme, on voit bien quelques notables de profession libérale parisienne qui peuvent être comme ça, un peu snob, un peu et puis en même temps aimant sincèrement l'art contemporain. Berling avec la maladresse qu'il faut à son ingénieur aéronautique, et puis c'est vrai Daroussin avec cette humanité et cette candeur qu'il met dans tout ce qu'il dit. Je trouve qu'on passe une soirée
jusqu'au moment où il se révolte quand même.
Très agréable, et que c'est vrai ce que dit Jacques, c'est une pièce, alors, un petit chef-d'œuvre, mais qui continue de me faire penser à ce qu'avait écrit d'une manière beaucoup moins efficace, mais aussi en s'interrogeant sur les fêlures de l'amitié, ce qu'avait écrit pour la radio Nathalie Sarraute dans Pour un oui, pour un non.
Ah, là, c'est génial. S'il vous plaît, génial, il y a d'autres pièces encore, on ne va pas arriver à tout traiter ce soir.
La pièce de Yasmina, elle est géniale.
Ah, c'est Yasmina Reza et c'est au théâtre Antoine. On passe directement au français avec Poussière, une pièce que le Suédois Lars Norén a écrite pour la Comédie française, où elle entre d'ailleurs au répertoire, et qu'il met lui-même en scène, Salle Richelieu, avec Martine Chevalier, Thierry Ancis, Anne Kessler, Bruno Raffaelli, Alain Langlais, Françoise Gillard, Christian Gonon, Hervé Pierre, Daniel Lebrun, Didier Sandre, Gilles David, ils sont tous là, hein, Mathieu Astre, Juliette Danny, Romain Goupil et Alexandre Chordereux. Oui, c'est pas la relève. Un groupe de femmes et d'hommes âgés, de classe moyenne, qui au beau jour, et depuis 30 ans, part ensemble à la mer, plein sud. La seule personne jeune est une handicapée, jouée d'ailleurs par François Gillard, qui chantonne, comme souvent, Fabienne du France-Gall. Elle a un prénom, c'est Marilyn. Les autres n'ont que des lettres. Pendant 2 heures, sous des cendres qu'on dirait volcaniques, ce petit monde tremble, radote, monologue, s'étonne chaque matin d'être en vie. La vie qui, je cite, est une salle d'attente de la mort. Cette pièce, dit Lars Norén, 73 ans, est une symphonie des adieux qui se joue sous nos yeux. Nous sommes dans un temps qui n'est plus linéaire, il est seulement mémoire. Voilà, c'est Poussière, c'est d'une tristesse sans nom. À côté Beckett, c'est Danny Boone. Et ça se joue jusqu'au 16 juin. Gilles.
Bah, je n'ai pas trouvé ça triste, moi, au contraire. C'est vrai que tel qu'on peut le résumer, vous l'avez très bien résumé, c'est une tragédie, mais c'est fait avec un tel art, avec un tel amour de l'humanité que tout ça finit par vous envelopper de compréhension, de tendresse. Alors que le texte est plutôt sévère, ça ressemble effectivement à une satire de la classe âgée. Et en réalité, ce n'est que de l'amour, ce spectacle, c'est que de l'amour des gens. Mais c'est ce que je ressens toujours chez Lars Norén, c'est-à-dire que même quand il parle des paumés, des malheureux, des drogués, il y a une compréhension que très peu d'auteurs, très peu de gens, en tout cas, arrivent à avoir. Il entre dans les gens avec un art exceptionnel, et il a mis ça en scène lui-même. C'était pas tout à fait terminé quand on l'a vu. Mais peu importe, ça flottait un petit peu. On sentait que c'était un moment exceptionnel qui se passait à la Comédie française. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un moment absolument magique et d'originalité et d'émotion tous les soirs à la Comédie française.
Jacques, vous avez éprouvé la même
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas été intéressé par ce que raconte Lars Norén à travers cette pièce sur la vieillesse. Bon,
vous êtes trop jeune.
De Gaulle a dit « La vieillesse est un naufrage », ça va, c'est dit en une phrase. Est-ce que j'ai besoin d'assister à ce spectacle pour le comprendre? Je pense pas. Mais je ne sais pas exactement ce que vaudrait la pièce si elle était mieux montée. Parce que je ne suis pas sûr que Lars Norén l'ait très bien montée et ait très bien su travailler avec les comédiens de la Comédie française, et que les comédiens du français aient eu le temps de s'imprégner pour jouer la vieillesse. Je veux dire que quand nous avons vu des pièces de Lars Norén où étaient représentés effectivement des SDF ou des malades mentaux, les comédiens avaient parfois travaillé près de 6 mois pour arriver à donner quelque chose. À la Comédie française, ils n'ont pas le temps, il y a l'alternance, etc. Et je pense que les comédiens qui sont sur le plateau, il y en a de très grands, pour la plupart, ce sont même de très bons comédiens. Là, ce qu'ils font pour composer la vieillesse, c'est pas très intéressant. Ils tremblotent, ils font des trucs assez académiques pour nous montrer qu'ils représentent des personnages vieux. Et je pense que c'est pas assez intériorisé, ce que je vois. Et je crois que ça nuit beaucoup, beaucoup au spectacle.
Armel.
C'est difficile parce que il y a quelque chose de sinistre dans la situation.
Ah bon, quand même, vous reconnaissez.
Oui, totalement sinistre. Mais je mentirais si je ne disais pas que j'ai été absolument saisie et happée par ce spectacle, que j'ai vu un jour où il n'y avait pas de souffleuse, il n'y avait pas d'hésitation sur le texte. Je le précise parce que je
mais
sais qu'à
le chauffage, quand
à
même,
la première générale, il y a eu beaucoup d'incidents. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec Gilles Costas lorsqu'il dit que Lars Noren a de l'amitié pour les personnages. Il est d'une ironie effrayante, il est d'une méchanceté terrible. Et il s'en prend non seulement à la vieillesse, mais il s'en prend aussi à la France, parce que c'est un petit groupe de Français, et tout ce qu'il peut faire pour nous montrer assez vil, assez...
Expliquez-moi cet handicapé, pourquoi
C'est la seule qui a un prénom, ça veut dire quelque chose, elle s'appelle Marilyn.
Mais pourquoi
je ne sais pas.
Et ben, ça veut dire que le handicap, la faiblesse, finalement, c'est la seule lumière qui existe dans ce monde, dans cette
société. Oui, mais en même temps, c'est la mort, parce que c'est elle qui accompagne chaque fois les personnages dans l'au-delà.
Non, c'est la seule qui vit à la fin.
Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est
que... Pourquoi vous racontez la fin ? Il y a peut-être des gens qui seront contents d'y aller voir.
Non, mais bien sûr, c'est magnifique, ce spectacle.
Ne racontez pas la fin, Fabien.
Et il y a quand même les acteurs...
Je ne sais pas, vous êtes quoi, Télérama, Pierre Murat, c'est pareil.
La pièce, elle n'est pas du tout réelle.
Non, mais comme ça. Pour nous, c'est la forme qui compte, ce n'est pas le fond.
Si nous sommes à ce point saisis, et je pense qu'on est saisis, on est happés, quelque chose advient, c'est grâce aux acteurs. Et c'est vrai que les acteurs n'ont pas besoin de... Ben si, il y a les acteurs.
Ah oui, non, mais je réponds à l'ennui.
Ah oui, voilà.
Pour moi, j'ai vécu ça comme une expérience métaphysique,
ce
spectacle.
Ah oui, complètement. Et c'est très étrange parce que j'avais vu des répétitions et les répétitions m'avaient paru très flottantes. On ne comprenait pas ce qui se passait. Les acteurs ne savaient pas encore bien leur texte. Lars Noren était très peu disert sur ce qu'il avait fait, sauf qu'on le sent hanté lui-même par sa propre mort. Mais non, moi je trouve ce spectacle vraiment saisissant et important.
Ben, comme vient de le dire Armel, et comme Lars Noren l'explique dans le programme, il a 73 ans et il attend la mort. Ses amis ont disparu, sont effacés, sont morts. Et moi, ce que j'ai trouvé bouleversant dans cette pièce, c'est qu'on voit des êtres, pas seulement des vieux, hein, il n'y a pas que des vieux, il y a des personnages jeunes qui peuvent être atteints d'un cancer. Non, il n'y a pas que des vieux. La mort, ça n'atteint pas que les vieux. La mort, ça peut atteindre des jeunes aussi. Et c'est ce que raconte le spectacle. Et ce que raconte le spectacle, c'est le désarroi, la solitude absolue avec des personnages qui ne se parlent pas, qui ne se répondent pas, qui n'ont même plus de présent puisqu'ils ne vivent que dans leur passé. La durée n'existe plus. Et effectivement, ce spectacle...
Elle existe dans la salle.
Ce spectacle raconte admirablement, enfin c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est comme une attente dans l'antichambre de la mort, effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien c'est bien Jacques, vous riez bêtement, là je suis désolée, mais c'est bien que des spectacles nous racontent aussi ce qui se passe dans la vie, ce qui se passe dans le monde, et pas que les dîners en ville de Christine Angot. C'est bien qu'ils nous mettent face à l'essentiel, le mourir. Et là je trouve que Lars Noren, avec une science peut-être due à son âge, peut-être due à la aux 80 pièces qu'il a écrites, nous raconte ça admirablement.
On meurt d'ennui. Oui.
C'est poussière.
Mais non, on ne meurt pas d'ennui.
Si. De Lars Noren, c'est à la Comédie française. Le lauréat au Théâtre Montparnasse, on va aller un peu plus vite. C'est l'adaptation par Terry Johnson dans une version française de Christopher Thompson du film de Mike Nichols sorti, vous vous souvenez, en 67. Lui-même adapté du roman de Charles Webb avec l'abbé occulte de Simon et Garfunkel, l'histoire d'un étudiant tout juste diplômé, Benjamin. C'était Dustin Hoffman dans le film, qui retourne dans sa famille en Californie et lors de la partie organisée en son honneur, il fait la connaissance de Mrs. Robinson, que vous allez nous chanter d'ailleurs tout à l'heure, Jacques. Et c'était Anne Bancroft dans le film, qui est la vieille amie alcoolique de ses parents, deux fois son âge, qui lui fait des avances et s'offre à lui, ça on peut le dire. Benjamin va aussi tomber amoureux d'Hélène, la fille de Mrs. Robinson, qui ne supporte pas, évidemment, d'apprendre qu'il a eu une relation avec sa mère et qui décide de se marier avec l'étudiant en médecine qui est son fiancé. La fin, même si on se souvient du film, je ne la raconte pas. C'est mise en scène par Stéphane Cotin, avec Anne Parillo dans le rôle de Mrs. Robinson, Arthur Fenwick qui joue Benjamin, et Adèle Bernier en Hélène Robinson. 50 ans après le film, que vaut la pièce selon vous, Fabienne ?
Oh, c'est un agréable divertissement. Il y a un côté, en plus, elle est montée dans le jus des années 60 et c'est amusant de voir la première prise de conscience des Américains contre l'American Way of Life. Mrs. Robinson, elle a envie, on sent qu'elle a envie d'adultère, elle a envie de jouir, elle a envie de plaisir. Ça devait être assez étonnant dans la société américaine de l'époque qu'une bourgeoise ose la même chose, ose ça, et le jeune homme, ben il ose désobéir à ses parents, c'est un surdoué, il ose jeter sa gourme, coucher avec une femme qui pourrait être sa mère. Bon, c'est bien, ça c'est intéressant. J'ai trouvé que c'était un divertissement sage, c'est bien, on s'amuse, c'est bien joué, c'est sympathique. Ça ne mérite pas non plus peut-être le... Bon, le détour. J'ai été assez étonnée. Les comédiens sont bons. Arthur Fenwick dans le rôle du jeune lauréat, il est formidable. Anne Parillo.
Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur les
Blanches. Qu'on n'avait pas vu.
Hein.
Elle est fantomatique. Alors au départ, je me suis dit, la pauvre, elle est méconnaissable. Elle est d'une minceur sépulcrale. Je me suis dit, mais mon Dieu, qui est-ce? Et puis finalement, à la réflexion, ça crée une espèce de grâce et de mystère qui ne sont pas des inintéressants.
Armelle.
Je suis totalement d'accord avec Fabienne, c'est un divertissement très agréable, mais c'est surtout grâce à Arthur Fenwick qui est vraiment époustouflant dans le rôle de Benjamin, qui est tonique, qui s'amuse, qui vit, qui vibre, qui apporte une pulsation vraiment formidable au spectacle, qui est très enjoué et très sympathique.
Et Gilles ?
Oui, c'est bien mis en scène par Stéphane Cotin et bien joué, mais quand même, arrêtons de monter des scénarios de films qui sont tirés d'un roman bricolant.
Ça n'arrête plus. Hein.
Ça a été bricolé après par un auteur anglais, lequel est maintenant bricolé par un auteur français. Ça donne tout sauf une pièce. C'est-à-dire qu'on a des petites séquences.
C'était un livre à l'origine.
Donc on n'a même pas... On a deux, trois bonnes scènes. Le reste du temps, c'est des petites séquences qui défilent. C'est quand même très, très mince.
J'ai pas revu le film, d'ailleurs. Je sais pas ce qu'il vaut encore aujourd'hui.
Oh, il était pas mal.
Il est formidable, le film.
Ça vous l'aviez vu, ça.
Il est toujours formidable.
Ah, c'est le troisième film de votre vie que vous avez vu.
Il y a 58 ans, il allait encore au cinéma.
Il y avait surtout Anne Bancroft dans le rôle Mrs. Robinson. Et là, à mon avis, tout le problème du spectacle, parce que vous avez raison de dire qu'Arthur Fenwick est très bien, mais Anne Parillo, elle est terrifiante.
Elle est mystérieuse.
Bah, écoutez, vous permettrez quand même de dire qu'elle manque un peu de vénusté et qu'on comprend mal qu'un jeune vénusté. Homme tombe amoureux.
Vous n'allez pas nous faire l'apologie des gros seins, quand même.
Et pourquoi pas?
Non, mais on rêve.
C'est pas forcément d'être gros, mais je pense qu'elle est surtout d'une sécheresse. Elle est d'une froideur invraisemblable et elle fait peur. On a l'impression de voir une femme vampire. Et on comprend pas du tout qu'un jeune homme,
elle a le
double de son âge, donc elle a 40 ans. Je pense
Anne Bancroft avait 35 ans quand elle a joué le film de Mike Nichols.
Oui, en l'occurrence, là, je pense que...
Heureusement qu'elle n'est pas pauvre et qu'elle mange bien.
Enfin, là, on voit une femme qui a plus d'heures de vol au compteur, à mon avis, mais enfin bon...
Oh non, ne recommencez pas,
Jacques.
Ne recommencez pas, c'était pauvre la dernière fois, maintenant c'est des femmes âgées.
Une comédienne très inexpressive. Elle est très belle, mais elle est très très inexpressive.
Oh,
et elle fait peur, elle est froide, voilà, il faut quand même éprouver un peu le désir du jeune homme. Il faut qu'on se projette
c'est
un peu.
C'est pas votre fantasme,
on peut désirer
Jacques,
une femme âgée.
Je vous laisse vos goûts, si vous aimez les femmes âgées, c'est votre problème.
Les hommes âgés, oui, les femmes âgées, non, mais les hommes âgés, oui.
Je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon émission ce soir. Le lauréat, c'est au Théâtre Montparnasse. Je le dis vite avant que vous en veniez aux mains. Dites-moi vite, mais vraiment pareil, un mois à la campagne, monté par Alain Françon, la pièce de Tourguenieff, au Théâtre des Jazets, avec une distribution sur le papier aux petits oignons, Anouk Grimbert, Michel Esco, Nicolas Avinet, Philippe Fretin, Jean-Claude Boléréda, Laurent Scott, Catherine Ferrand, India Air, et dans un décor sommaire, pour ne pas dire rudimentaire, censé évoquer la villégiature de Natalia Petrovna, qui est jouée par Anouk Grimbert, arrive un été l'étudiant Alexis Nicolas Avinet pour devenir le précepteur du fils de Natalia. Il va alors battre et faire battre les cœurs de Nathalie et de la jeune pupille. Verochka, vous me dites vite simplement si votre cœur a battu ou pas, Jacques.
Mon cœur a battu, d'autant plus que la mise en scène de Françon est très intéressante, parce qu'il essaie de ne pas prendre la pièce par le côté sentimental, et il montre au contraire à quel point cet amour physique qui s'empare du personnage, de cette femme qui a... Là aussi, c'est une cougar, comme on dirait aujourd'hui, et qui tombe amoureuse de ce garçon. Mais c'est malgré elle, ça la dépasse complètement. Elle se reproche de l'aimer, elle s'en veut, elle ne s'aime pas l'aimant. Elle devient injuste, elle devient méchante. Et ça, c'est tout à fait bouleversant. Anouk Grimbert est évidemment une comédienne fabuleuse.
Armel ?
Oui, il y a une très belle nouvelle adaptation-traduction de Michel Vinavert. Cette distribution exceptionnelle, cette Anouk Grimbert qui est bouleversante, comme les Michel Esco, comme le sont tous les comédiens. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir actuellement à Paris, parce que tout est beau, tout est pensé intelligemment, le décor, les costumes, la manière de dire, la lumière. Enfin, moi, j'ai été époustouflée et bouleversée par ce travail.
Et Fabienne ?
Moi, pareil. Et puis, je trouve qu'il y a une réhabilitation de Tourguenieff, qu'on pensait comme un auteur mineur. Là, on voit à quel point ça annonce Tchekhov dans ses silences, ses non-dits, ses suggestions. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et quand même, les personnages vivent des tempêtes intérieures. Et ça, remarquablement porté par une distribution superbe.
Et c'est donc au théâtre des Jazets. Et enfin, j'avais inscrit au théâtre de Paris, La Collection, mise en scène par Thierry Harcourt, le thriller psychologique d'Harold Pinter, qui a été créé à Londres en 1962, adapté par Eric Kahan avec Nicolas Vautz, Sarah Martins, Thierry Godard et Davy Sardou, soit deux couples, l'un homo, c'est Bill et Harry, Davy Sardou et Thierry Godard, l'autre hétéro, Stella et James, c'est Sarah Martins et Vaude. Et un soir, Harry reçoit un coup de téléphone anonyme. Un homme mystérieux force sa porte, développe un discours ambigu et refuse de dire son nom. Nous, on sait évidemment qui c'est et ce qu'il veut savoir surtout, mais on ne vous dira pas. Pour Armel, un bijou de perversité.
Oui, parce que je vois bien ce qu'on peut reprocher à cette mise en scène, au fond. Je comprends, j'ai lu mes confrères, je comprends leurs réserves. Mais pour moi, c'est un Pinter parfait. C'est-à-dire, c'est bref, c'est saisissant. On ne sait pas tout, il ne nous donne pas toutes les clés. On reste à la fin dans une espèce d'incertitude, comme le sont tous les personnages. On ne sait pas qui ment. Et j'ai trouvé Nicolas Vaud en particulier tout à fait
mais a-t-il,
inquiétant.
A-t-il jamais été mauvais, Nicolas Vaud ?
Moi, je ne trouve pas, mais
Gilles,
formidable.
Rapidement.
Oui, c'est une mise en scène totalement pinterienne, totalement anglaise. On reste comme ça, sans savoir toute la vérité. Et Nicolas Vaud et Davy Sardou sont formidables.
Jacques ?
Ben non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la traduction d'Eric Kahn a beaucoup vieilli. Et quant à la mise en scène de Thierry Harcourt, elle épaissit complètement les choses. Pinter, ça vaut par quelque chose de fluide et d'un peu mystérieux, une sorte de brume. Et là, vraiment, ce n'est pas de la brume, c'est
mais
de la mélasse.
En quoi ça épaissit,
c'est
Jacques
de la
Nerson,
mélasse. Et vous parlez de Nicolas Vaud, il surjoue l'étrangeté. Nicolas Vaud surjoue l'étrangeté, mais je ne le trouve pas spécialement bon. Davy Sardou s'en sort bien mieux.
Et Fabienne ?
Eh bien, je suis complètement d'accord avec mon camarade Jacques. Je trouve que c'est tellement surjoué que tout le mystère de la pièce... Alors certes, Pinter, paraît-il, montait ses pièces en comédie de boulevard à Londres, mais on aime plutôt les choses un peu subtiles, les non-dits, les suggestions. Et là, je trouve que cette distribution, tous autant qu'ils sont, c'est trop incarné, c'est trop matériel, et je n'y crois pas une seconde.
Eh bien, c'est La Collection d'Harold Pinter, et c'est au Théâtre de Paris, monté par Thierry Harcourt. On en vient au moment des conseils, et on va commencer avec Jacques.
Eh bien, je vous conseille un Georges Dandin, mis en scène par Jean-Pierre Vincent, qui
était créé en région, je crois.
Voilà, c'est ça. Mais c'est toujours en région. Ça se donne encore quelques jours à Lyon, mais ça va aller à Marseille, ça va aller à Besançon. Ça se jouera à la rentrée seulement à Bobigny, quelques temps, mais ça va une très grosse tournée.
Donc, ça ne va pas venir à Paris, en fait.
Bah, Bobigny, c'est presque Paris, quand même.
Au sens propre, non, pas dans un théâtre parisien, c'est ça
non,
que je veux dire.
Pas encore, mais peut-être.
C'est intéressant qu'une pièce tourne de ville en ville.
Très, voilà, très, très, très
sans s'arrêter au centre, c'est très bien.
très belle mise en scène de Jean-Pierre Vincent avec un comédien remarquable qui a beaucoup travaillé
avec
Vincent Garanger, un comédien qu'on a beaucoup vu chez Planchon. Et c'est intéressant parce que Georges Dandin est une pièce qui a été vraiment, on peut le dire, redécouverte par Planchon. Alors Vincent a eu une mise en scène un peu différente. Son Dandin est plus méchant d'une certaine manière, plus froid, mais c'est quand même très, très, très intéressant.
Et donc là, pour le mois mars-avril, donc il faut aller où, qu'on le
Alors,
sache?
Alors, on peut aller après Lyon, il va y avoir Sète, Narbonne, Marseille, Caen, Dijon, Besançon et Dunkerque. Ça, c'est jusqu'au 30 mai.
Le conseil de Fabienne.
Moi, ça serait d'aller voir Vera au Théâtre de Paris, une comédie de Petr Zelenka, où l'on voit la descente aux enfers d'une directrice d'agence de pub, interprétée magistralement par Karine Viard. Et ça raconte la Tchécoslovaquie aujourd'hui, aux prises avec le capitalisme. Ça raconte le monde de l'illusion, des médias, des acteurs, tout ce monde de faux-semblants. Karine Viard est exceptionnelle. C'est mis en scène par Martial Di, Fonziobo et Élise Vigier. Toute la distribution est magnifique. Donc c'est à la fois d'une drôlerie décapante et d'une sauvagerie politique angoissante.
Mon conseil, c'est un livre qui n'est pas une pièce de théâtre, mais c'est signé d'un dramaturge. C'est « J'ai tué Barbara ». Chez Philippe Rey, le récit autobiographique du dramaturge dont on a souvent parlé ici, hein, au masque, ma folle Otari, moi aussi je suis Catherine Deneuve, et qui est Pierre Note, et il raconte là sa jeunesse errante, ses tentatives de suicide, ses séjours d'ailleurs en hôpital psychiatrique, et l'écriture de son premier roman, qui est paru en 93 chez Nadeau, qui s'appelait La chanson de Madame Rosenfeld, sur une chanteuse qui ressemblait à Barbara et qui avait le pouvoir de consoler les garçons en souffrance, comme l'était le jeune Pierre Note, puisqu'il avait 23 ans. Et j'ai trouvé ce livre très touchant. En plus, derrière, on peut lire le premier roman, puisqu'il est dans le même volume de Pierre Note, et c'est « J'ai tué Barbara ». Le conseil de Armelita.
Alors, puisque Fabienne a parlé de Vera, qui est effectivement, il faut y aller en courant pour applaudir Karine Viard et ses camarades, je vais vous parler d'un Rabelais, qui est le Rabelais qui avait été écrit, composé par Jean-Louis Barrault en 1968. Il s'était fait virer de l'Odéon par Malraux après...
C'était à Orsay à l'époque, dans mon souvenir.
Non. Il est allé à l'Élysée-Montmartre avant d'avoir Orsay. Il a eu l'idée de louer l'Élysée-Montmartre, qui était une salle de catch. Et d'ailleurs, les gens croyaient que Rabelais, c'était le nom d'un catcheur, parce qu'il n'y avait jamais eu que du catch, là. Et il a monté cette espèce de théâtre forain, comme savait le faire si bien Barrault. Et là, aujourd'hui, c'est repris, coupé, évidemment, parce que c'était assez long, le spectacle de Barrault, où il y avait de la musique de Paul Naref et des costumes de Jean Bouquin. Donc c'était un peu hippie comme spectacle. Et là, c'est Hervé van der Meulen, qui est un comédien et metteur en scène, mais qui est surtout le directeur du studio théâtre d'Asnières et de l'école qui est associée à cet endroit. Et donc, il y a sur le plateau une vingtaine de jeunes, soit sortis de l'école, soit encore dans l'école, et qui jouent ça. Et c'est du théâtre fraternel et forain. Ça a été un moment au théâtre Montansier de Versailles, et c'est maintenant, jusqu'au 7 avril, au studio d'Asnières. Et puis, ça ira en juin au Festival d'Anjou.
Gilles.
Oui, alors je voudrais rappeler que Christian Benedetti au studio théâtre d'Alfortville continue son cycle Tchekhov et avec la cerisée, il fait des spectacles extrêmement étonnants, tout à fait dépouillés. Et puis je voudrais parler d'un petit spectacle tiré d'un livre que vous connaissez certainement, qui est le livre de Mathilde Audet, « Choisir de vivre », où Mathilde Audet, qui était un homme, qui était même un homme très viril, qui était même reporter de guerre, et s'est tout d'un coup transformée à l'âge de 60 ans en femme. Et ce récit était adapté, mis en scène par Franck Berthier, et qui est joué actuellement par Nathalie Mann. Et c'est quelque chose de tout complètement étonnant. C'est-à-dire, on voit devant nous un homme qui devient une femme, et c'est une espèce de révélation, comme le changement d'un papillon, une chrysalide devant un papillon, c'est très beau.
Et c'est
au studio Héberto.
Studio Héberto. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Armel Elio, Fabienne Pascaud, Jacques Nerson et Gilles Costas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Carsin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir à la technique, au Sacha Guitry, Manuel Couturier, Tar Bouklifa,
Stéphane Touvenin, que je remercie, ainsi que Didier Lagarde, qui assurait la réalisation. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, il aura lieu le jeudi 22 mars à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio pour deux émissions. L'une qui sera consacrée au film et l'autre au livre dans une semaine. On parle de cinéma. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.